Condrol attique, la pucelle de Thilouze. Le seigneur de Valennes, lieu plaisant dont le château n'est point loin du bourg de Thilouze, avait pris une chétive femme, laquelle, par raison de goût ou de dégoût, plaisir ou déplaisir, maladie ou santé, laissait jeûner son bon mari des douceurs et sucreries stipulées en tout contrat de mariage. Pour être juste, il faut dire que ce dessus-dit seigneur était un mâle bien or et sale, toujours chassant les bêtes fauves et pas plus amusant que les la fumée dans les salles. Puis, par appoint de compte, le susdit chasseur avait bien une soixantaine d'années, desquels il ne sonnait mot, pas plus que la veuve d'un pendu ne parle de cordes. Mais la nature, qui les tortues bancales, aveugles et laid, jette à panerai ici-bas, sans en avoir plus d'estime que des beaux, vu que comme les ouvriers en tapisserie, elle ne sait ce qu'elle fait, donne même appétit à tous, et à tous même goût au potage. Aussi, par aventure, chaque bête trouve une écurie. De là, le proverbe, il n'y a si vilain pot qui ne rencontre son couvercle. Or, donc, le seigneur de Varennes cherchait partout de jolis pots à couvrir et souvent, outre la fauve, courait la petite bête. Mais les terres étaient bien dégarnies de ce gibier à haute robe et un pucelage coûtait bien cher à dégoter. Cependant, forcé de fureter, force de s'enquérir, il advint que le sieur de Valennes fut averti que dans Thilouze était la veuve d'un tisserand, lequel avait un vrai trésor en la personne d'une petite garce de 16 ans, dont jamais elle n'avait quitté les jupes, et qu'elle menait elle-même faire de l'eau par haute prévoyance maternelle. Puis la couchait dedans son propre lit, la veillait, la faisait lever le matin, la laissait à tels travaux que, à elle deux, elle gagnait bien 8 sols par chacun jour, et au fait la tenait en laisse à l'église, lui donnant à grand-peine le loisir de brouter un mot de joyeuseté avec les jeunes gars. Encore ne fallait-il point trop jouer des mains avec la pucelle. Mais les temps de ces temps-là étaient si durs que la veuve et sa fille avaient juste de pain assez pour ne point mourir de faim. Et comme elles demeuraient chez un de leurs parents pauvres, souvent, elle manquait de boire en hiver et de hardes en été. Devait des loyers à effrayer un sergent de justice, lesquels ne s'effraient point facilement des dettes d'autrui. Bref, si la fille croissait en beauté, la veuve croissait en misère et s'endettait très fort pour le pucelage de sa garce, comme un alchimiste pour son creuset où ils font tout. Lorsque ces enquêtes furent faites et parfaites, un jour de pluie, le dissier de Varennes vint par cas fortuit dedans le taudis des deux fileuses et pour soi sécher envoie acquérir des fagots aux plessis voisins. Puis en attendant, il s'assit sur un escabeau entre les deux pauvres femmes. À la faveur des ombres grises et demi-jours de la cabane, il voit le doux minois de la pucelle de Toulouse. Ses bons bras rouges et fermes, ses avant-postes durs comme bastions qui défendaient son cœur du froid, sa taille ronde comme un jeune chêne, le tout bien frais et net et fringant et pimpant, comme une première gelée, vert et tendre comme une pousse d'avril, enfin, elle ressemblait à tout ce qu'il y a de joli dans le monde. Elle avait les yeux d'un bleu modeste et sage, et le regard encore plus coi que celui de la Vierge, vu qu'elle était moins avancée, n'ayant point eu d'enfant. Un qui lui aurait dit « Voulez-vous faire la joie ?» Elle aurait répondu « Eda, par où ?» tant elle semblait nisse et peu ouverte aux compréhensions de la chose. Aussi le bon vieux seigneur tortillait-il sur son escabelle, flairait la fille et se désenchantait le col comme un singe voulant attraper des noix grolières. Ce que voyait bien la mère et ne soufflait mot, en peur du seigneur qui avait à lui tout le pays. Quand le fagot fut mis à l'âtre et flamba, le bon chasseur dit à la vieille « Ah, cela réchauffe presque autant que les yeux de votre fille. Las, mon seigneur, fait-elle, nous ne pouvons rien cuire à ce feu-là. Mais si, répondit-il, et comment ? Bah, ma mumeur, prêtez votre garce à ma femme, qui a besoin d'une chambrière. Nous vous paierons bien deux fagots tous les jours. Ah, mon seigneur, et que croyais-je donc à ce bon feu de ménage ? Eh bien, reprit le vieux bragard de bonne bouillie, car je vous paierai à rente un minot de blé par saison. Et donc, reprit la vieille, où les mettrai-je ? Ben, dans votre mette, s'écria l'acquéreur de pucelage. Mais je n'ai point de mette, ni de bahut, ni rien. Eh bien, je vous donnerai des mettes, des bahuts et des poils, des bourbilles, un beau lit avec sa pente et tout. Mais, dit la bonne veuve, la pluie les gâtera, je n'ai point de maison. Voyez-vous pas d'ici, répondit le seigneur, le logis de la tourbelière où demeurait mon pauvre piqueur pilgrin, qui a été éventré par un sanglier. Oui, fait la vieille. Eh bien, vous vous boutrez là-dedans jusqu'à la fin de vos jours. Par ma fille, s'écria la mère en laissant tomber sa quenouille, dites-vous vrai ? Oui. Et donc, quel loyer donnerez-vous à ma fille ? Mais tout ce qu'elle voudra gagner à mon service, dit le seigneur. Oh, mon seigneur, vous voulez gausser ? Non, dit-il. Si, dit-elle. Non, mais par Saint Gatien, Saint Éleuthère et par les mille millions de saints qui grouillent là-haut, je jure que. Eh bien, si vous ne gaussez point, reprit la bonne mère, je voudrais que ces fagots fussent un petit brin, passés par devant le notaire. Mais par le sang du Christ et le plus mignon de votre fille, ne suis-je point gentilhomme ? Ma parole vaut le feu. Ah bien, je ne dis non, mon seigneur, mais aussi vrai que je suis une pauvre filandière, j'aime trop ma fille pour la quitter. Elle est trop jeune et faible encore, elle se romprait au service. Hier au prône, le curé disait que nous répondrons à Dieu de nos enfants. Non, 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 fit le seigneur, allez quérir le notaire. Un vieux bûcheron courut au tabellion, lequel vint et dressa bel et bien un contrat, auquel le sire de Valaine mit sa croix, ne sachant point écrire. Puis, quand tout fut scellé, signé, « Eh bien, la mère, dit-il, ne répondez-vous donc plus du pucelage de votre fille à Dieu ?»« Oh, mon seigneur, le curé disait, jusqu'à l'ange de Réauzon, et ma fille est bien raisonnable. » L'or se tournant vers elle, « Marifiquet, reprit la vieille, ce que tu as de plus cher est l'honneur, et là où tu vas, un chacun, sans compter mon seigneur, te le voudra te lire, mais tu vois tout ce qu'il vaut. Par ainsi ne t'en défier qu'à bon escient et comme il faut. Or, pour ne point contaminer ta vertu devant Dieu et les hommes, à moins de motifs légitimes, Aie bien soin par avance de faire saupoudrer un petit ton cas de mariage. Autrement, tu irais à mal. Oui, ma mère, fait la pucelle. Et là-dessus, elle sortit du pauvre logis de son parent et vint au château de Valennes pour y servir la dame, qui la trouva fort jolie et à son goût. Quand ceux de Valennes, Saché, Vilaine et autres lieux apprirent le haut prix donné de la pucelle de Thilouze, les bonnes femmes de ménage, reconnaissant que rien n'était plus profitable que la vertu, tâchèrent d'élever et nourrir toutes leurs filles pucelles. Mais le métier fut aussi chanceux que celui d'éduquer les vers à soie, si sujets à crever, vu que les pucelages sont comme les nèfles et mûrissent vite sur la paille. Cependant, il y eut quelques filles, pour ce, notées en Touraine, et qui passèrent pour vierges dans tous les couvents de religieux, ce dont je ne voudrais point répondre, ne les ayant point vérifiées en la manière enseignée par Verville pour reconnaître la parfaite vertu des filles. Finalement, Marie Fliquet suivit le sage avis de sa mère et ne voulut entendre aucune des douces requêtes, paroles dorées et singeries de son maître, sans être un peu trempée de mariage. Quand le vieux seigneur faisait mine de la vouloir margauder, elle s'effarouchait comme une chatte à l'approche d'un chien en criant « Oh, je le dirai à madame !» Bref, au bout de 6 mois, le sire n'avait pas encore seulement recouvré le prix d'un seul fagot. À toutes ces besognes, la Fiquet, toujours plus ferme et plus dure, une fois répondait à la gracieuse quête de son seigneur. Quand vous me l'aurez ôté, me le rendrez-vous, hein? Puis en d'autres temps, disait, mais quand j'aurai autant de pertuis qu'en ont les cribles, il n'y en aurait pas un seul pour vous, tant laid je vous trouve. Ce bon vieux prenait ce propos de village pour fleur de vertu, et ne chaillait point à faire de petits signes, longues harangues et 100 000 serments. Car force de voir les bons gros avant-cœur de cette fille, ses cuisses rebondies qui se moulaient en relief à certains mouvements à travers ses côtes, et force d'admirer autre chose capable de brouiller l'entendement d'un saint, ce bon cher homme s'était enamouré d'elle avec une passion de vieillard, laquelle augmente en proportion géométrale au rebours des passions des jeunes gens, pour ce que les vieux aiment avec leur faiblesse qui va croissant, et les jeunes avec leur force qui s'en vont diminuant. Pour ne donner aucune raison de refus à cette fille endiablée, le seigneur prit à partie un sien sommelier, agacé de plus de 70 et quelques années, et lui fit entendre qu'il devait se marier afin de réchauffer sa peau, et que Marie Fiquet serait bien son fait. Le vieux sommelier, qui avait gagné 300 livres au tournoi de rente à divers services dans la maison, voulait vivre tranquille sans ouvrir de nouveau les portes de devant. Mais le bon seigneur, l'ayant prié de se marier un peu pour lui faire plaisir, l'assura qu'il n'aurait nul souci de sa femme. Alors le vieux sommelier s'engagea par obligeance dans ce mariage. Le jour des fiançailles, Marie Fiquet, débridée de toutes ses raisons, et ne pouvant objecter aucun grief à son poursuivant, se fit octroyer une grosse dot et un long douaire pour le prix de sa défloraison. Puis bailla licence au vieux coquard de venir tant qu'il pourrait coucher avec elle, lui promettant autant de bons coups que de grains de blé donnés à sa mère. Mais à son âge, un boisseau lui suffisait. Les noces faites, point ne faillit le seigneur. Aussitôt, sa femme mise en toile, de s'esquicher devers la chambre, bien verré, maté et tapissé, où il avait logé sa poulette, ses rentes, ses fagots, sa maison, son blé et son sommelier. Pour être bref, sachez qu'il trouva la pucelle de Thilouze la plus belle fille du monde, jolie comme tout, à la douce lumière du feu qui pétillait dans la cheminée, bien oiseuse entre les draps, cherchant en Castille, sentant une bonne odeur de pucelage, et de prime fait n'eut aucun regret au grand prix de ce bijou. Puis, ne pouvant se tenir de dépêcher les premières bouchées de ce friand morceau royal, le seigneur se mit en devoir de fanfolucher en maître passé ce jeune formulaire. Voici donc le bienheureux qui part aux grandes gloutonneries, vêtit, glisse, enfin ne sait plus rien du joli métier d'amour. Ce que voyant, après un moment, la bonne fille dit innocemment à son vieux cavalier, « Monseigneur, si vous y êtes comme je pense, donnez, s'il vous plaît, un peu plus de volée à vos cloches. » Sur ce propos, qui finit par se répandre, je ne sais comment, Marie Fiquet devint fameuse, et l'on dit encore en nos pays, « Oh, c'est une pucelle de Thilouze !» en moquerie d'une mariée pour signifier une friquenelle. Friquenelle se dit d'une fille que je ne vous souhaite point de trouver en vos draps la première nuit de vos noces, à moins que vous ne soyez nourri dans la philosophie du portique, où l'on ne s'estomirait d'aucun méchif. Et il y a beaucoup de gens contraints d'être stoïciens en cette conjoncture drôlatique, laquelle se rencontre assez souvent, car la nature tourne, mais ne change point, et toujours il y aura de bonnes pucelles de Thilouze en Touraine et ailleurs. Que si vous me demandiez maintenant en quoi consiste et où éclate la moralité de ce conte, je serais bien en droit de répondre aux dames que les 100 contes drôlatiques sont plus faits pour apprendre la morale du plaisir que pour procurer le plaisir de faire de la morale. Mais si c'était un bon vieux bragard, eh bien déréné, qui m'interlocuta, je lui dirais, avec les gracieux ménagements dus à ses perruques jaunes ou grises, que Dieu a voulu punir le sieur de Valaine d'avoir essayé d'acheter une denrée faite pour être donnée.